autour de la question.
Qu'est-ce que ça va changer?
Comment ça se passe ailleurs?
Pourquoi ça?
En quoi ça nous touche?
Caroline Lachowski.
Bonjour, ravie de vous retrouver avec Apolline Verlon-Raison à la réalisation, sous les palétuviers aujourd'hui, pour nous interroger sur ces écosystèmes tropicaux, fragiles, fascinants et encore mystérieux, les mangroves. La mangrove, cette forêt dans la mer, qui plonge ses racines dans l'eau salée, inspire puissamment notre imaginaire. Elle abrite une étonnante biodiversité, sert de poupinière à poissons, de rempart contre l'érosion et les tsunamis, mais aussi, on le sait moins, de puits de carbone ou de filtres à pollution. Mais cette forêt maritime, qui est encore loin d'avoir livré tous ses secrets, est aujourd'hui menacée. Elle se réduit comme peau de chagrin sur tous les littoraux tropicaux, de la Guyane au Vietnam, en passant par le Bangladesh et la Guinée. Comment restaurer, étudier la mangrove, protéger cet écosystème fragile avec les populations qui y vivent et qui en vivent? Voilà ce que nous allons demander avec notre invité, François Fromard du CNRS, qui vient de diriger l'ouvrage collectif Mangrove, une forêt dans la mer, dont nous avons un exemplaire à vous faire gagner, amis auditeurs. Autour de la question « Pourquoi la mangrove ?» Bienvenue. Bonjour François Fromard.
Bonjour Caroline et merci de votre invitation.
Merci d'être venu depuis Toulouse pour être en direct avec nous. Vous êtes directeur de recherche émérite au CNRS, au laboratoire Ecolab à l'Université de Toulouse, où vous poursuivez vos recherches sur la mangrove, les mangroves que vous avez étudiées aussi bien en Guyane qu'en Indonésie, à Madagascar, au Vietnam ou en Afrique de l'Ouest. C'est vous qui avez dirigé avec Emma Michaud et Martine Ossette-Maquet de l'Institut Écologie et Environnement du CNRS ce très bel ouvrage collectif, Mangrove, une forêt dans la mer, édité au Cherche Midi, qui aurait aussi pu s'intituler tout ce que vous avez toujours voulu voir et savoir sur la mangrove, avec de somptueuses photos, certaines sont de vous, François Fromard, mais aussi des textes littéraires d'Aimé Césaire à Chamoiseau, en passant par Glissant, Cendrars ou Michaud, car la mangrove a puissamment inspiré notre imaginaire. Pourquoi la mangrove, François Fromard? Pourquoi et comment avez-vous, vous aussi, été happé, si j'ose dire, par cet écosystème-là?
C'est une histoire, disons, maintenant un peu ancienne, une longue histoire. Je suis d'abord botaniste de formation et écologue. J'ai commencé à travailler sur les milieux de haute montagne, donc un milieu tout à fait différent, les hautes montagnes pyrénéennes, d'Espagne ou d'Afrique du Nord.
Rien à voir avec la mangrove.
Rien à voir avec la mangrove, si ce n'est que diversité, relations, environnement, etc. Donc c'est quand même le même domaine. Et puis, à la faveur, au fur et à mesure de l'évolution des structures de recherche, des laboratoires, je me suis retrouvé presque du jour au lendemain dans un laboratoire qui travaillait sur l'écologie tropicale en général. Et puis, j'étais amené rapidement à me pencher sur la mangrove. Voilà, c'est une succession d'événements.
Ce terrain-là, je ne sais pas quelle était votre première mangrove, si j'ose dire, mais ça vous a tout de suite
Ça m'a tout de suite attaché. Oui, je trouve ça tout de suite attirant et fascinant. Ma première mangrove, c'était en Martinique. Je me suis retrouvé un jour en Martinique dans une équipe de recherche un peu multidisciplinaire. Il y avait des spécialistes de différentes disciplines, des hydrologues, des sédimentologues, etc. Il y avait un spécialiste de la mangrove, c'était moi, et je n'avais jamais vu de mangrove avant cette mission. Et donc, bon, c'était un peu délicat et surprenant au départ. Puis je me suis pris au jeu, et puis voilà.
Dans
puis
cet enchevêtrement-là.
Voilà, c'est ça. Et puis la mangrove, on a la chance, la mangrove, il y a une faible diversité végétale, par exemple. Donc on peut rapidement retrouver ces marques, même si on n'a jamais vu ces espèces auparavant. Et puis peu à peu, je me suis intéressé, j'ai trouvé ça assez intéressant, fascinant. Et depuis ça, c'était dans les années au début des années 90. Et depuis, je me suis quasiment focalisé sur ce milieu et sur les milieux littoraux en général, mais essentiellement sur la mangrove.
Autour de la question pourquoi la mangrove, je propose François Fromard pour commencer de planter le décor avec un petit extrait sonore d'un documentaire d'Océanopolis, Entre terre et mer, sous les palétuviers, exactement.
Dans les régions tropicales, lorsque la végétation entre en contact avec la mer et vice-versa, cela engendre des écosystèmes denses et verdoyants. Les mangroves se développent dans les eaux calmes des lagunes et des estuaires. Elles constituent des ensembles végétaux parmi les plus productifs au monde. Seulement une soixantaine d'espèces d'arbres et d'arbustes composent ces mangroves. Elles sont toutes regroupées sous le nom de palétuviers. ce sont les rares végétaux capables de se développer dans des eaux dont la salinité varie perpétuellement. Ancrés dans des sédiments vaseux et pauvres en oxygène, les palétuviers sont munis de racines aériennes qui leur permettent de capter l'oxygène de l'air. Dans cet environnement particulier, les adaptations sont nombreuses. Certaines graines commencent même à germer directement sur l'arbre. Ces plantules sont suffisamment développées pour s'enraciner dès qu'elles toucheront le sol. Et si elles tombent dans l'eau, elles commencent par flotter avant d'être suffisamment lourdes pour couler et s'enraciner. L'enchevêtrement de la mangrove présente de multiples avantages. Il protège le littoral de l'érosion ainsi que des tempêtes. Il sert de nurserie pour les poissons juvéniles, de refuge pour certaines espèces animales et de garde-manger. Enfin, la mangrove représente une source de subsistance importante pour de nombreuses populations humaines.
Allons gazouiller sous les palétuviers.
Ah oui, sous les palétuviers, sous les palétuviers.
Ah, je te veux sous les
palétuviers. Marie Laforêt, sous les palétuviers, reprise d'une chanson chantée d'abord par Pauline Carton.
Exactement, hein, dans un opéra, une opérette. Je crois que c'est dans une opérette.
Dans une opérette, je crois bien. Quel effet ça fait d'être dans la mangrove, sous les palétuviers, justement, François Fromart? Milieu qui peut sembler inquiétant aussi.
C'est un peu un monde à part, qui peut sembler inquiétant, mais quand on y est, on s'y fait relativement vite. D'abord, l'accès n'est pas forcément toujours facile. Enfin, ça dépend des mangroves, des types de mangroves, des régions. Il y a des mangroves beaucoup plus difficiles d'y pénétrer que d'autres.
Hein, on dit la mangrove ou les mangroves, en fait? Parce qu'on pourrait dire les mangroves, elles sont
c'est la mangrove, c'est le terme général, c'est l'écosystème mangrove. Quand on prononce ce terme, on a tout de suite une image de ce milieu, de ces racines enchevêtrées, de cette vase, de ces moustiques aussi peut-être, cette ambiance très particulière. Mais la mangrove se décline sous différents types de faciès, on peut dire, différents types de végétation, de structures, d'architectures différentes, de compositions différentes. Et donc la mangrove est constituée de différents faciès de mangrove.
Elle borde au fond tout le littoral tropical.
Voilà, c'est ça.
On le retrouve vraiment sur toute la bande intertropicale.
Voilà. On dit qu'elle se développe dans la zone de balancement des marées. C'est un joli terme assez expressif. Entre les zones de marées les plus basses et de marées les plus hautes, et dans les zones tropicales et intertropicales. Globalement, c'est entre 30 degrés de latitude nord et 30 degrés de latitude sud, avec des variantes, des exceptions, mais c'est son domaine de prédilection.
Alors, une biodiversité, on parlait des palétuviers, peut-être pas si diverse que ça, mais en tout cas une vie assez insoupçonnée.
Alors, il y a une vie importante, une vie grouillante parfois. La biodiversité des palétuviers, qui sont l'élément, disons, structurant de cette mangrove, sont les végétaux, les arbres qui constituent cette mangrove.
Qui poussent vraiment dans l'eau salée, hein,
qui poussent dans l'eau salée, qui sont adaptés à pousser dans l'eau salée et qui sont adaptés au fait qu'ils sont tantôt immergés, ils sont adaptés ils se développent sur des substrats souvent instables, donc ils ont des structures racinaires souvent très particulières et très, très différentes. Donc c'est...
Et avec des formes de vie particulières sous la mangrove. On parlait des moustiques, évidemment, mais aussi des poissons. C'est une pouponnière pour les poissons.
Oui, les poissons, les crabes. Les crabes sont un élément très important des mangroves, au point qu'on appelle les crabes les ingénieurs, les espèces ingénieures de la mangrove, parce qu'ils structurent, ils transforment le milieu, ils enfouissent la matière organique au fond de leur terrier, ils prélèvent, les propagules, les fruits de palétuvier. Donc ils ont un rôle vraiment important dans ce milieu. Puis donc il y a les poissons, il y a les crevettes, il y a les oiseaux, des oiseaux qui viennent nicher. On peut penser aux fameux ibis rouges, un peu emblématiques des mangroves de Guyane. Donc c'est un milieu très riche de ce point de vue-là.
Alors on reconnaît aujourd'hui à la mangrove un rôle particulier, parce qu'en fait la mangrove, ce qu'on dit, c'est qu'elle rend des services écosystémiques, c'est ça ?
Voilà, des services écologiques ou des services écosystémiques. Et alors la mangrove rend de nombreux services écosystémiques. Alors on peut en citer quelques-uns. La mangrove donc est un site, un lieu de nourricerie, de nurserie pour des espèces animales, certaines à valeur halieutique, à valeur importante pour la pêche côtière, comme certaines espèces de crevettes, de poissons, de crabes, etc. La mangrove protège aussi les régions littorales de l'érosion. Dans une certaine mesure, elle protège ou elle peut atténuer les effets des événements climatiques extrêmes tels que les tsunamis ou les tempêtes tropicales ou les cyclones. Hein.
D'autant plus important aujourd'hui en période de changement climatique.
Qui sont de plus en plus fréquents dans ces périodes de changement climatique, dont la mangrove a ce rôle-là. C'est aussi un filtre, dire que c'est un filtre, une sorte d'éponge, hein, donc entre le milieu terrestre et le milieu marin côtier, qui peut retenir un certain nombre d'éléments polluants, même en transformer certains, comme des éléments polluants organiques, qui peut absorber par exemple de l'azote excédentaire, du phosphore excédentaire, amené par des pollutions domestiques par exemple. Et donc la mangrove peut utiliser ces éléments comme un engrais, par exemple, les absorbe, les transforme, ce qui fait qu'ils ne sont pas rejetés, par exemple, dans un lagon qui pourrait être pollué ou eutrophisé par ces éléments apportés
en excès. Donc le rôle de la mangrove est absolument essentiel, et on ne parle pas, on va y venir bien sûr, toutes les populations qui y vivent et qui en vivent, est aussi essentiel aujourd'hui parce qu'on découvre que ça pourrait être, comme toutes les forêts du monde, mais cette forêt maritime pourrait être un puits de carbone aussi.
C'est aussi un puits de carbone, alors il y a des recherches qui se développent dans ce domaine depuis une quinzaine d'années, donc vous voyez que c'est relativement récent. La mangrove est constituée de palétuviers qui ont la particularité d'avoir ce qu'on peut appeler une efficacité photosynthétique très grande, c'est-à-dire qu'ils absorbent très facilement avec une grande efficacité le gaz carbonique contenu dans l'air pour le transformer en matière organique et stockent ce gaz carbonique et donc ce carbone dans leur partie aérienne, dans les troncs, dans les branches, etc., dans leurs racines aériennes, également dans la partie souterraine, ce qui fait que c'est un puits de carbone et un puits de carbone entre terre et océan, ce qui fait qu'il a un rôle stratégique, une position stratégique dans cette situation un peu d'interface.
Interface, équilibre, déséquilibre. La condition mangrove, on le verra, inspire aussi beaucoup les écrivains et les artistes. Vous avez souhaité, François Fromard, écouter un chanteur secret lui aussi, Gérard Manset, entre le Delta et la mangrove avec l'Enfant Soldat sur RFI.
Enrôlé de force, quelques coups de crosse. Sur un visage d'enfant, c'est comme un fruit qui se fend. Dans la jungle, pire encore, que rien ne perdira. Vivant dans son trou comme un rat, mais que rien. Car j'ai vu son visage dans le delta et la mangrove et la pourriture des villes. Dans le delta et la mangrove et la pourriture. Nouveau Tchernobyl. De bave et de bile, mais à nos portes qui s'oppressent, le chloroforme et la compresse, dans la jungle pire encore, mais que rien n'empêchera, vivant dans son trou comme un rat. Vivant comme un enfant soldat.
L'enfant soldat de Gérard Manset sur RFI. Merci pour ce choix.
Merci de l'avoir passé.
Dans la vase, le delta et la mangrove. Autour de la question, pourquoi la mangrove est-elle en danger? Est-elle si vulnérable aujourd'hui? Je propose d'écouter l'éclairage d'un autre chercheur du CNRS, Rutger De Wit, spécialiste de biodiversité marine, qui a participé à une étude de l'Académie des sciences sur la vulnérabilité des zones littorales intertropicales. Avec ce chiffre inquiétant, en moins d'un siècle, 50% des mangroves ont disparu. On écoute Rutger De Wit au micro de notre reporter Alice Podicki.
La baisse de 50% des mangroves donc, s'explique en partie par l'urbanisation galopante du littoral. On va trouver la plupart des grandes métropoles sur le littoral actuellement. Et un autre phénomène, c'est la création des bassins pour la culture des crevettes qui a très fortement contribué à la réduction des surfaces des mangroves.
Maintenant qu'il y a ces études et ce chiffre de 50% de destruction des mangroves, qu'est-ce qui est fait pour contrer cette destruction?
Il y a, c'est d'abord une prise de conscience. Au début, il y avait très peu d'appréciation sur ces mangroves, et c'était un peu considéré comme des endroits très sales, difficiles d'accès, seulement connus par certaines populations qui les connaissaient bien. Aujourd'hui, donc, il y a une prise de conscience que c'est un moyen de lutter contre l'impact de montée au niveau de la mer, les tsunamis. Donc ça, c'est très important. Et on va donc de plus en plus faire des mesures de protection de ces mangroves, mais aussi de plantation des mangroves, donc ce qu'on peut appeler la restauration écologique. Cependant, là, j'ai un petit bémol, parce que quand on envisage de replanter des mangroves, c'est un peu comme chez nous, avec les forêts, on va décider de planter deux ou trois espèces, et on n'arrive pas à avoir la richesse spécifique d'origine, qui était particulièrement riche dans le sud-est d'Asie et en Indonésie.
François Froment, vous partagez le constat et l'avis de Roger De Witt, qu'on entendait au micro d'Alice Podziki. Replanter la mangrove, c'est peut-être pas la meilleure des solutions.
C'est effectivement pas la meilleure des solutions. On est un peu revenu sur ces grands projets de plantation qui sont faits à grande échelle dans différents pays d'Afrique de l'Ouest ou d'Afrique de l'Est ou ailleurs, et qui bien souvent sont soldés par des échecs parce que on plante souvent avec une seule espèce de mangrove, en l'occurrence le palétuvier rouge, le rhizophora, pour employer le terme précis, et on le plante dans des endroits où naturellement il ne se trouverait pas. Et on plante de la mangrove quelquefois aussi dans des endroits où il n'y a pas eu de mangrove. S'il n'y a pas de mangrove naturellement, c'est que les conditions environnementales, écologiques font que la mangrove ne peut pas s'implanter. Donc souvent, ces projets de plantation, ces plantations fonctionnent, marchent bien pendant 6 mois, 1 an, on se dit ça y est, c'est réussi. Puis quand on revient 2-3 années après, on s'aperçoit que
ça ne prend pas.
Il y a souvent de très fortes mortalités. Donc maintenant, la politique, c'est plutôt l'aide à la régénération naturelle. On regarde comment la mangrove se régénère et puis on aide à la propagation des ce qu'on appelle les propagules, c'est-à-dire les organes de propagation de la mangrove, qui sont en gros les fruits hein, ou les graines de ces palétuviers, qu'on les aide à se replanter naturellement, ou à germer, à regermer, à s'insérer naturellement dans des secteurs. Et c'est une façon beaucoup plus efficace, beaucoup moins onéreuse. Et c'est vers ça qu'on va maintenant.
Parce que plutôt que ces grands projets de plantation, elle est grignotée.
La mangrove régresse. Alors, je ne suis pas tout à fait d'accord avec les chiffres que Roger a donnés tout à l'heure. Là, c'est 50%, c'est peut-être, je dirais, plutôt 20 ou 30%. On considère qu'à l'origine, la mangrove recouvrait environ 200 000 km² à la surface du globe. Donc, c'est pas énorme hein, à l'échelle de la planète. La mangrove a toujours été un écosystème qu'on peut qualifier d'écosystème relativement rare hein, sur la surface du globe. Et aujourd'hui, il y a entre 130 ou 140 km² de mangrove à la surface du globe. Ce qui est vrai, ce qui est certain, c'est que la mangrove régresse relativement vite, environ 1% par an, ce qui est considérable.
Et partout de la même manière?
Pas partout de la même manière. Il y a des pays qui ont des systèmes de protection de la mangrove qui sont plus efficaces. Et les pays, évidemment, la densité de la population est importante, où évidemment les populations ont besoin de ressources. La mangrove recule. Et par contre, ce que disait Roger là, dans cet extrait, c'est vrai que la principale cause de recul de la mangrove, c'est le développement de la crevetticulture.
Des crevettes. Ce sont les élevages de crevettes. Pourquoi ? Parce que ça, du coup, ça prend la place de la mangrove.
Voilà, c'est ça. On ouvre des bassins dans la mangrove, c'est-à-dire on défriche, on installe des digues, des canaux, etc. Et puis on élève des crevettes. Ce bassin fonctionne pendant 2 ans, 3 ans, 4 ans, quelquefois 5 ans. Puis après, la rentabilité baisse. Le système ne fonctionne plus. Donc on abandonne ce bassin et on en crée un en amont. Et ainsi de suite, peu à peu, la mangrove est grignotée et disparaît. Donc il y a des régions entières. Et je pense, par exemple, au sud du Vietnam, dans le delta du Mekong, où je pense aussi à la région de Kalimantan, qui est la partie indonésienne de l'île de Bornéo, où les mangroves ont quasiment disparu sous le développement incessant des bassins à crevettes.
Et là, on ne peut plus les restaurer. Quand elles ont disparu, c'est compliqué.
Alors, la mangrove a la particularité d'être résiliente, c'est-à-dire elle peut naturellement se restaurer dans certaines conditions.
Donc il y a toujours des chances. On continue de s'interroger sur la mangrove, cette forêt dans la mer, pour reprendre le titre du très beau livre collectif que vous avez dirigé, François Froment, aux éditions du Cherche Midi, et dont nous avons un exemplaire à vous faire gagner, amis auditeurs, si vous nous le demandez, par mail ou sur notre page Facebook, en précisant bien votre adresse postale. Avis aux amateurs, on se retrouve dans 3 minutes, juste après le flash d'info. A tout de suite.
De la question.
Caroline Lachowski.
Bienvenue à vous qui nous rejoignez pour cette deuxième partie entre terre et mer, sous les palétuviers, autour de la question pourquoi la mangrove ? Comment étudier et protéger ces écosystèmes tropicaux si fascinants et si vulnérables ? Mangrove, une forêt sous la mer, c'est le titre du très bel ouvrage collectif dirigé par notre invité François Fromard et ses collègues du CNRS aux éditions du Cherche Midi. Nous avons un exemplaire à vous faire gagner, amis auditeurs, sous les tropiques et ailleurs, pour redécouvrir entre autres tout l'imaginaire de la condition mangrove, fabuleux poème d'Aimé Césaire, lu par l'acteur Jacques Bonnafé.
Le désespoir n'a pas de nom. Une main agite mou le drapeau de toutes les redditions. C'est le grand anguillard qui nous fait signe que les gentillesses sont hors de saison. On tourne en rond autour du pot. Le poteau noir, bien sûr. Noir, la mangrove reste un miroir. Aussi une mangeoire. La mangrove broie tapis à part. La mangrove respire, méphitique, vasard. La tourbière serait bien pire. Ce n'est rien que du haut, mort à la base, même portant beau. Au contraire, le fruit flotte, le poisson grimpe aux arbres. On peut très bien survivre mou en prenant assise sur la vase commensale. L'allure est des forêts, la dodine, celle du balancement des marées. Mangrove.
La condition mangrove, Aimé Césaire, lu par Jacques Bonnafé. La mangrove, c'est aussi tout un imaginaire. Vous citez dans ce bel ouvrage, François Fromard, les très beaux textes d'Aimé Césaire, mais aussi d'Edouard Glissant, de Sandrard, de Michaud, de Patrick Chamoiseau ou d'Amitav Ghosh.
Oui, on aurait pu en citer d'autres. Et ce qui est étonnant dans le poème qu'on vient d'entendre, je réalise maintenant, c'est que c'est très juste d'un point de vue scientifique. On voit que la mangrove respire, la mangrove est une mangeoire, le fruit flotte, le poisson grimpe, c'est exactement ça. Il fait allusion aux adaptations de la mangrove et des palétuviers à ce milieu particulier. Puis alors évidemment, avec tout le langage et l'imaginaire et les mots et les images de Césaire,
on peut très bien survivre mou en prenant assis sur la vase commensale.
Le balancement des marées, c'est ça, la mangrove se développe dans la zone de balancement des marées. Donc il y a tout dans ce texte.
Paysage mouvant aussi, on en parlait. Vous vous disiez qu'on s'habitue à la mangrove. Est-ce qu'on s'habitue aux moustiques, aux insectes? Parce que c'est quand même aussi ça dans la mangrove. Une vie foisonnante, une vie insoupçonnée.
C'est vrai que quand on pénètre en mangrove, on fait attention à deux choses. D'abord, au niveau des marées. Quand on va travailler en mangrove, la première chose que l'on fait, si on regarde le calendrier des marées, les horaires de marée, puis on y va à marée basse si on est à pied, à marée haute si on est en bateau ou en pirogue, etc. Donc ça, il faut toujours avoir ça en tête. Et puis aussi, il faut se protéger contre les insectes. Alors il y a les moustiques, mais il n'y a pas que les moustiques. Il y a les guêpes, les thans, les abeilles, il y a ce qu'on appelle en Guyane les mouches sans raison, qui sont des toutes petites guêpes qui vont piquer, qui font très mal, qui ne sont pas dangereuses par la suite. Il y a ce qu'on appelle aussi les yens, qui sont des petits moucherons qui sont aussi inoffensifs, mais qui sont assez énervants quand on s'arrête en mangrove pour y travailler, quand on fait des prélèvements d'échantillons, quand on prélève des feuilles, etc. On reste sur place et on est souvent entouré, envahi par ces insectes. Donc il faut se protéger. Souvent on met des gants, souvent quelquefois on a des véritables tenues d'apiculteurs quand on est dans des secteurs où on sait qu'il y a des abeilles ou des guêpes. Donc il faut faire attention. Puis il y a dans d'autres mangroves ou à d'autres saisons sèches, on peut aller en mangrove en t-shirt ou pieds nus sans problème. Donc
mais c'est peut-être ça aussi, dans cet imaginaire de la mangrove, il y a l'imaginaire des tropiques et il y a aussi ce côté inquiétant, on pense aussi aux palus et aux moustiques qu'ils transmettent. Est-ce que c'est des réservoirs à moustiques, les mangroves ?
C'est un réservoir à moustiques, mais paradoxalement la mangrove est plutôt un milieu relativement sain. C'est la présence, l'omniprésence du sel, c'est de l'eau salée en mangrove, de l'eau saumâtre avec des variabilités dans le taux de la salinité, mais le sel est toujours présent. Et donc les moustiques sont plutôt dans les zones d'eau douce, donc plutôt en arrière mangrove. Et les moustiques sont d'autant plus présents que la mangrove est dégradée ou que la mangrove est défrichée.
Il y a des
écoulements d'eau douce ou qui sont bloqués. Et donc les moustiques porteurs de vecteurs du paludisme ou d'autres.
Donc plus la mangrove est dégradée et plus finalement plus c'est mangrove, aussi un souci.
Pour
les hommes et les femmes qui y vivent, parce qu'on n'en a pas parlé, mais dans le monde entier, les hommes et les femmes qui y vivent en vivent aussi de la mangrove. Ils ont besoin du bois pour se chauffer, mais récoltent le caoutchouc, les coquillages.
On tire encore de nombreuses ressources de la mangrove. Il y a le bois, on utilise le bois pour la construction, pour des pilotis, notamment le bois du palétuvier rouge, qui est un bois très serré, très imputrécible, parce qu'il est très riche en tanins, par exemple. On fait beaucoup de charbon de bois aussi, avec les palétuviers, hein, pour la cuisine, etc., dans de nombreux pays. On y pêche du poisson, on y pêche des crabes, on y pêche des crevettes, on en extrait du sel aussi, hein, donc dans certaines régions comme en Guinée par exemple, ou dans d'autres régions du monde. Donc la mangrove est un lieu de ressources et beaucoup de gens, beaucoup de populations vivent de la mangrove.
Donc là encore, il faut trouver un équilibre entre toutes ces populations qui vivent de la mangrove et pour que justement ils puissent continuer à en vivre de la mangrove.
Il y a les utilisations qu'on peut appeler traditionnelles ou villageoises qui sont tout à fait compatibles avec l'équilibre de la mangrove, avec l'équilibre du milieu. Puis après, il y a les transformations, j'allais dire, presque industrielles du milieu, par la crevetticulture dont on parlait tout à l'heure, ou par des grandes cultures, hein, les cultures de rizières, par exemple, de riz dans certains secteurs, ou le défrichement des mangroves, ou le comblement de mangroves dans certains secteurs, ou autour les périphéries des grandes agglomérations, des grandes villes. Et donc là, c'est souvent assez irréversible comme type de transformation.
Autour de la question pourquoi la mangrove, je propose, François Fromard, un nouvel éclairage, et celui d'un ethnologue que vous connaissez, je crois, Philippe Gesselin, qui fait partager ses rencontres et sa vie, notamment auprès des Soussous de Guinée, dans la mangrove, sur la scène du théâtre de la Criée à Marseille, et puis bientôt à Paris, au Quai Branly, dans la mangrove avec les Soussous de Guinée. On écoute Philippe Gesselin, qui a même une question pour vous, François.
Les Soussous vivent de la mangrove. Ils vivent à l'intérieur, mais ils vivent de la mangrove. C'est-à-dire qu'ils l'exploitent pour produire du riz de mangrove, pour produire du sel. Et pour produire du sel, il leur faut couper les forêts de mangrove, donc utiliser du bois de palétuvier. Et moi, mon travail en Guinée a consisté à montrer que ces communautés Soussous avec lesquelles on travaillait avaient développé des savoir-faire et des connaissances qui leur permettaient de ne pas entamer en fait la mangrove et les forêts de palétuviers. Mon travail était de faire émerger ces savoir-faire. Quelles sont les pratiques de ces gens quand ils produisent du sel? Est-ce que ces pratiques sont véritablement destructrices des forêts de mangrove? Et donc la réponse a été non. Là où j'ai travaillé, non, les pratiques ne sont pas destructrices des forêts de mangrove, puisque les pratiques permettent le renouvellement de la ressource d'année en année. Mon travail d'ethnologue était de faire remonter ces savoir-faire et ces connaissances spécifiques pour les intégrer à d'éventuels projets de développement, entre guillemets, et qui consistait à essayer de mettre en place des alternatives solaires pour produire du sel sans utiliser le bois de palétuvier, le bois de mangrove.
Ce qui veut dire aussi que souvent, ces populations qui vivent auprès et des mangroves sont un peu montrées du doigt. Et ce que vous dites, c'est qu'au fond, c'est peut-être pas ça la question, peut-être pas ça le problème. Ils ont peut-être, eux, au contraire, des ressources, des choses à nous apprendre sur la manière de vivre dans la mangrove.
Alors, ils ont des énormément de choses à nous apprendre sur la manière de vivre dans la mangrove. Ils ont énormément de choses à nous apprendre sur la manière de gérer la mangrove. Là, je parle de populations et de communautés qui vivent dans cette mangrove depuis plusieurs siècles déjà. Hein. Je ne parle pas des nouveaux arrivants qui, effectivement, ne détiennent pas les savoir-faire suffisants pour permettre le renouvellement de la ressource en bois dans les forêts de mangrove. Et puis, il y a surtout une pression démographique telle dans la région de Conakry, puisque là, on parle des Soussous, donc en Guinée-Conakry. Il y a une pression démographique telle que de toute façon, les forêts de mangrove sont entamées par ceux qui ont besoin de bois pour alimenter les foyers dans la ville de Conakry, construire des bâtiments, des échafaudages, etc., etc.
Vous avez une question peut-être pour François Froment, qui est avec nous en studio, qui travaille sur les mangroves et qui publie donc ce livre sur les mangroves, une forêt dans la mer.
Oui, une question. Je ne suis pas retourné en Guinée depuis de nombreuses années. J'aimerais savoir où en sont en fait les mangroves de Guinée. Ça me semble important. D'autant que la pression démographique est telle, Conakry s'est développée à une vitesse folle. Et je voulais savoir, donc François, est-ce que vous pouvez me dire où en sont ces fameuses mangroves de Guinée aujourd'hui?
Votre réponse, François.
Merci d'abord de cette question, Philippe Gesselin, qui est effectivement un grand connaisseur de cette partie du monde, là, notamment des mangroves de Guinée, leur utilisation pour l'extraction du sel de ces mangroves. Alors la Guinée, il se trouve que c'est un pays que je ne connais pas, donc j'ai encore encore beaucoup de mangroves à découvrir.
On en profite pour saluer nos auditeurs. Hein,
voilà.
Qui sont à
connaître. Alors la Guinée, ça fait partie de ce que les géographes appellent le pays des rivières du Sud, hein, qui va de la Gambie, la Guinée, jusqu'en Sierra Leone, même jusqu'au Libéria. Et c'est un pays où les mangroves sont omniprésentes tout le littoral, notamment c'est ce qu'on appelle la Guinée maritime, hein, où la mangrove est omniprésente. C'est aussi une région qui est fortement peuplée. Et donc, évidemment, il y a des antagonismes entre le développement de la population, le développement des centres urbains, dont parlait Philippe, le développement de Conakry, et puis le maintien de la mangrove. Donc, évidemment, il y a toujours des. Alors, il y a toujours cette pratique, ce qu'il appelait, lui, la pratique respectueuse, hein, d'extraction du sel, qui font que maintenant, on essaie de ne pas utiliser le bois de mangrove pour chauffer le sédiment et pour en extraire, pour en faire cristalliser le sel. Mais on utilise d'autres techniques sur lesquelles a travaillé Philippe Gélin. Et donc ça, c'est évidemment bénéfique pour la mangrove. Mais le développement de la population fait que, toujours dans ces secteurs-là, la mangrove, autour notamment des centres urbains, la mangrove recule.
Finalement, on a l'impression que c'est un peu la double peine dans ces régions, où à la fois la démographie galopante, c'est un fait, qu'il faut effectivement protéger, préserver ces mangroves qui sont indispensables sur place, mais aussi pour le climat de la planète entière. Mais qu'en même temps, il ne faut pas que ce soit au dépend des populations.
Voilà, moi je ne suis pas pour un conservatisme à tout craint, dire il ne faut pas toucher aux mangroves. Non, il faut les populations qui vivent dans, par la mangrove et près de la mangrove, avec des pratiques traditionnelles qui font qu'effectivement, qui ont toujours respecté la mangrove, qui savent qu'on peut prélever du bois, mais pas couper toute la mangrove.
C'est ça,
on peut prélever du
poisson,
mais avec certaines pratiques, etc., pour qu'elle puisse se régénérer, que les populations de poissons, de crabes puissent se renouveler, etc. Donc il faut maintenir un certain équilibre. C'est pas facile, et avec le développement des populations, souvent le déplacement des populations. Parce que souvent, les populations qui sont vraiment originaires du littoral ont ce respect, disons, du milieu. Mais dans certains pays, pour des raisons diverses, il y a des populations qui affluent sur les zones littorales, qui n'ont pas cette culture ancestrale et qui n'ont pas les interdits aussi, parce que ces populations littorales ont souvent des interdits vis-à-vis de ces milieux. Il y a des bois sacrés, il y a des milieux qu'il ne faut pas,
toucher.
Il faut pas pénétrer, il ne faut pas toucher, parce que c'est traditionnellement, c'est comme ça, hein, dans leur culture. Et les populations qui viennent d'ailleurs, évidemment, n'ont pas cet aspect-là en tête, n'ont pas cette culture-là, et donc n'ont pas ces interdits, et vont d'autant plus aller perturber le milieu et le dégrader. Et finalement, ils ont besoin aussi de ressources. Donc c'est vraiment
un problème. C'est vraiment un vrai défi, d'où l'importance aussi de mieux comprendre, de mieux connaître ce milieu de la mangrove. Vous travaillez aussi avec des étudiants. Vous avez des étudiants de Guinée, d'ailleurs, je crois, ou d'ailleurs, qui ont envie de travailler sur place, sur ces questions-là.
Oui, évidemment, en travaillant sur les mangroves, on est en contact avec des universités, des centres de recherche, des étudiants des pays tropicaux, et notamment en Afrique de l'Ouest. J'ai eu l'occasion de travailler au Togo, avec des étudiants togolais, au Gabon, au Cameroun, ou en Côte d'Ivoire. Et là, je suis en relation avec des étudiants guinéens qui souhaiteraient développer des travaux sur la mangrove de Guinée, qui souhaiteraient comparer ce qu'ils appellent les bois sacrés de mangrove avec les mangroves qui n'ont pas ce statut-là et qui sont dégradées, et montrer comment les unes sont dégradées et les autres sont protégées. Donc c'est un sujet éminemment intéressant et important pour la Guinée. Donc évidemment, ces étudiants, ça se heurte à des problèmes d'encadrement, de financement, etc. Et donc,
c'est pas simple de
travailler avec eux, mais c'est pas toujours facile, mais c'est intéressant et c'est nécessaire.
Et c'est vraiment nécessaire partout, que ce soit en Afrique de l'Ouest, que ce soit au Bangladesh aussi, hein, il y a une mangrove très particulière.
Ah oui, c'est la plus grande mangrove d'un seul tenant, la mangrove de Sundarbans, hein, qui est très riche, qui est magnifique, qui est immense. Il y a le fameux tigre du Bengale, qui est un élément de diversité un peu emblématique et important, qui est dans ces mangroves-là.
Et qui est lié à ces mangroves. Hein.
Qui est lié à ces mangroves. Et là aussi, il y a toute une population qui vit de la mangrove, qui vit de la pêche, etc. Et donc là aussi, il y a des interactions entre population et mangrove qui sont importantes
Mais que vous prenez en compte aujourd'hui, enfin vraiment que la recherche prend en compte.
Je pense qu'il faut de plus en plus prendre en compte le fait que la mangrove, on dit que la mangrove n'est pas simplement un écosystème, mais on parle de socio-écosystème. C'est-à-dire dans l'étude du milieu, de ces communautés interaction entre les communautés animales, végétales, l'environnement physique, chimique de ces milieux. Il y a aussi les populations qui vivent par la mangrove, près de la mangrove, qui en tirent des ressources. Et quand on appréhende la mangrove d'une façon globale, il faut évidemment tenir compte de ces interactions.
Vous avez beaucoup travaillé aussi à Mayotte, je crois,
sur la mangrove. À Mayotte, oui, c'est un des lieux de prédilection. Puis ces 10 dernières années, disons.
Apparemment, vous écoutiez le chanteur latéral que vous avez choisi de nous faire découvrir.
Voilà, c'est un chanteur maoré bien connu, qui est assez intéressant, oui.
Latéral. Mmh.
tué, sa louve naïf ongué, sa patte naïf dilué. Allô, 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 allô. On nous a dit, si vous voulez le département, il faudrait d'abord accepter nos lois. Si tu veux danser le chicoma, détends tes papiers, on te demandera. Dans l'immédiat. Allô, 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 allô. Kishali naï katwe, sa louva naï fungwe, sa patte naï tilwe. Allô, 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 allô.
Mayotte, chantée par Latéral sur RFI. Vous nous écoutez dans l'archipel des Comores, à côté à Moroni, sur 103.fm, amis auditeurs, autour de la question de la mangrove. Cette forêt entre terre et mer, habitat unique d'habitants exceptionnels. Je vous propose un dernier éclairage. C'est celui du biologiste Jérôme Bourgeat, spécialiste des tortues marines, qui était récemment notre invité.
Ouais, les mangroves, c'est un habitat qui est vraiment fondamental pour les tortues marines, hein, puisque notamment dans les phases de développement. Donc en fait, le cycle de la tortue, le bébé tortue va naître, il va courir sur la plage, il va aller en mer, et puis il va rester en mer pendant quelques années. C'est ce qu'on appelle, nous, les années perdues, parce qu'on ne sait pas du tout ce que ce petit bébé tortue va faire. Et puis il va grandir jusqu'à atteindre 4, 5, 8 kilos, et là il va recruter à la côte. Et notamment, il va utiliser beaucoup les mangroves. Pourquoi les mangroves? Parce que non seulement il trouve à manger, mais elle trouve aussi des protections contre les prédateurs. Parce que finalement, il y a peu de requins ou de gros requins qui vont se réfugier dans les mangroves pour aller chasser. Et on a le cas d'Europa, par exemple, cette petite île dans le sud du canal du Mozambique, qui est caractérisée par une mangrove interne très importante, d'eau claire, puisqu'il n'y a pas d'apport d'eau douce, donc d'eau vraiment cristalline. Et c'est un refuge pour les tortues qui est extraordinaire, puisqu'elles y trouvent à la fois le gîte et le couvert. Et donc, c'est vraiment un sanctuaire pour ces stades qu'on appelle immatures, ces stades juvéniles, qui vont grandir et qui vont donner les adultes, qui eux-mêmes, à leur tour, vont pouvoir créer une descendance. Donc c'est vraiment un habitat fondamental pour les tortues marines. Or, elles se dégradent, et je pense que c'est fondamental pour la préservation de l'écosystème côtier, mais elles se dégradent à une vitesse grand V avec les activités humaines.
C'est un vrai défi, hein, que de préserver ces mangroves qui sont des pouponnières, donc pour les tortues, pour les poissons.
Alors pour les tortues, c'est un peu particulier. Alors Jérôme Bourgeat fait allusion à l'île d'Europa, qui est effectivement une île magnifique où il y a une superbe mangrove. Qui fait partie des îles éparses dans l'ouest de l'océan Indien, entre Madagascar et le canal du Mozambique. Non, dans le canal du Mozambique.
Mais ce sont des îles inhabitées.
Ce sont des îles inhabitées. Seuls les scientifiques ont la chance de pouvoir y aller de temps en temps. Et Jérôme Bourgeat, il y est allé souvent pour étudier effectivement les tortues. J'ai eu la chance de pouvoir y aller à deux reprises pour étudier la mangrove.
Et sur l'île d'Europa.
Sur l'île d'Europa. Et là, effectivement, la tortue est associée aux mangroves parce que les mangroves se développent sur un sol, un substrat particulier, ce qui fait de sable corallien, de débris corallien. Donc les petites tortues peuvent se déplacer sur ce substrat, sur ce type de sol particulier. Par contre, en Guyane, qui est aussi une région, un département, une région où les tortues viennent pondre fréquemment, il y a une espèce d'antagonisme entre la présence des mangroves et les tortues. Parce que les tortues vont venir se reproduire, vont venir pondre sur les quelques rares plages de sable qui existent en Guyane. Et ces plages de sable sont périodiquement recouvertes par des bancs de vase sur lesquels la mangrove va se développer. Quand il y a de la vase, quand il y a de la mangrove, les tortues, là, ne peuvent pas venir pondre. Donc, les lieux de ponte de tortues se déplacent au gré du déplacement des bancs de vase. Et c'est une question qui est étudiée par mes collègues là-bas en Guyane, hein, qui a des programmes de recherche qui regroupent des spécialistes des tortues, des spécialistes de la mangrove, des spécialistes de la dynamique côtière. Ils essaient de comprendre comment ces lieux de ponte de tortues se déplacent au gré du déplacement des bancs de vase et au gré du déplacement des mangroves.
Des bancs de vase, hein, parce que la mangrove, ça s'installe sur la vase.
La mangrove s'installe pas uniquement sur la vase, mais le plus souvent sur la vase, qui est un substrat instable, mouvant, qui se déplace, qui peut être très stable dans certaines régions, mais qui, en l'occurrence, en Guyane, par exemple, est très instable et se déplace très rapidement.
Il y a cette notion d'instabilité hein, dans la mangrove elle-même. Enfin, c'est un milieu mouvant.
Alors là aussi, on parlait tout à l'heure de la mangrove ou les mangroves. Ouais. Hein, donc, il y a des mangroves qui sont extrêmement instables, comme la Guyane, c'est le cas le plus typique. On a des espèces de trains de bancs de vase qui circulent le long de la côte, qui viennent, c'est de la vase qui est rejetée par le fleuve Amazon. Hein, ça vient plus haut des massifs andins, etc. Et ça circule au gré des courants marins jusqu'au Venezuela, ces bancs de vase se déplacent le long de la côte et vont s'accoler à la côte. Et quand ils se stabilisent, la mangrove va se développer très rapidement sur ces bancs de vase.
Et pendant quoi ? Quelques mois ?
Pendant quelques années. On est en train d'étudier d'ailleurs la cyclicité de ces phénomènes. C'est un cycle de 10 ans, de 20 ans, de 30 ans, où c'est relié à des phénomènes climatiques, ou ce qu'on appelle la NAO, des cycles d'instabilité climatique. Et aussi, il y a ces phénomènes de sédimentation, période dans laquelle la mangrove va se développer. La côte peut avancer de plusieurs kilomètres, comme ça, sur une
et
période...
Et ça prolonge la côte quand la mangrove pousse.
Sur une période de temps relativement courte, et l'inverse est également vrai, la côte peut reculer de plusieurs kilomètres ou de plusieurs centaines de mètres sur une année, très rapidement. La mangrove peut disparaître et aussi vite qu'elle s'est installée. Donc, en Guyane, la mangrove est instable. À Mayotte, par exemple, la mangrove est très stable. On peut regarder des photographies aériennes des années 50 ou regarder l'état des mangroves aujourd'hui. La mangrove en front de mer a relativement peu bougé, si ce n'est dans certains secteurs où il y a de l'érosion, etc. Mais voilà, donc elle peut être très instable ou elle peut être au contraire stable, être un peu figée dans le temps.
Oui, c'est ça. Voilà. Et qu'est-ce qui reste à découvrir sur la mangrove ? Quelles questions vous posez en tant que chercheur ?
Les grandes questions qui intéressent les chercheurs maintenant, les colloques, les publications scientifiques, c'est le mangrove et changement climatique, mangrove et puits de carbone. Comment la mangrove va évoluer dans le contexte actuel du changement climatique, qui dit changement climatique dit élévation du niveau des mers. La mangrove est liée, pas par sa nature même, au niveau des mers. Si le niveau des mers, comment la mangrove va
la résister ?
Alors elle va peut-être se déplacer vers l'intérieur des terres, si la configuration des terres à l'intérieur le permet. C'est ce qu'on observe dans certaines régions du monde, en Floride par exemple. On constate que la mangrove avance sur par exemple des prairies marécageuses qui s'étuent en amont, qui auparavant n'étaient pas atteintes par le sel de la mer. Et par contre, elle va reculer en front de mer puisque le niveau des mers s'élève. Donc,
la
question qui préoccupe les chercheurs beaucoup, c'est la question du carbone et la question du changement climatique et de la dynamique de ces mangroves dans les 20, 30, 40, 50 années à venir.
Pour revenir sur Mayotte, vous avez vous-même là-bas monté une expérience scientifique pour voir comment la mangrove pouvait dépolluer.
C'est une expérience qui a débuté il y a presque 10 ans maintenant, qu'on a conduit avec des collègues du laboratoire Ecolab de Toulouse. Il s'agit de voir comment la mangrove peut servir de site d'épollution, de traitement secondaire d'eau usée et d'eau usée domestique. Alors là, tous les mots ont leur importance. On parle d'eau usée domestique, c'est-à-dire qui ne sont pas chargées en métaux lourds, en résidus d'hydrocarbures, etc. Ce sont des eaux qui sont excédentaires en produits organiques, en azote, en phosphore. Et donc, ces eaux usées pré-traitées quand même en amont vont être rejetées en mangrove et on va voir comment la mangrove va pouvoir absorber et dégrader ces polluants, et ce qui évite que ces polluants ne se déchargent librement dans le lagon, par exemple, qui entoure Mayotte, qui pourrait être de cette façon-là vite pollué, vu le développement de population qui est actuellement à Mayotte.
Donc, de l'utilité de la mangrove, quelle est votre mangrove préférée ? Je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, mais un lieu ou un moment où vous avez vécu quelque chose
difficile. C'est difficile à dire, parce que celle qui m'étonne toujours, c'est les mangroves de Guyane, celle que je connais le mieux, mais chaque fois que j'y reviens, de Guyane, oui, on en parlait tout à l'heure, la mangrove bouge tellement, bouge incessamment, et on peut aller rechercher une mangrove qu'on a vue quelques années auparavant, et puis on y revient, elle a disparu, et maintenant on a un fond de mer parce que l'érosion a pris le pas sur la sédimentation.
Donc c'est assez
étonnant. Puis il y a cette mangrove des îles Éparses, on en parlait tout à l'heure avec Jérôme Bourgeat, qui est une mangrove sur une île inhabitée, donc qu'on peut considérer un peu comme une sentinelle climatique, puisqu'elle n'est soumise qu'au changement climatique global, puisqu'il n'y a aucun impact direct sur cette mangrove, aucun impact humain. Et donc, si la mangrove bouge, si elle évolue, et elle bouge et elle évolue, c'est sous l'effet vraisemblablement du changement climatique. Donc ça aussi, c'est extrêmement intéressant à suivre.
Merci infiniment d'être venu en direct depuis Toulouse, François Roman. Je rappelle le titre de l'ouvrage collectif, très bel ouvrage, hein, vraiment, que vous avez dirigé avec Emma Michaud et Martine Ossette-Maquet du CNRS, Mangrove, une forêt dans la mer, dont il nous reste un exemplaire à vous faire gagner, amis auditeurs, si vous nous le demandez par mail ou sur notre page Facebook, en précisant bien votre adresse postale, à bon entendeur.
Autour de la question @rfi.fr.
Autour de la question sous les palétuviers, c'est fini pour aujourd'hui. N'hésitez pas à nous réécouter, à nous podcaster sur le site de RFI et de RFI Pure Radio. Au plaisir de vous retrouver demain, amis auditeurs, avec Apolline Verlon-Raison à la réalisation et Caroline Fillette en coulisses pour nous interroger sur l'ironie de l'évolution, en nous demandant si cette théorie de l'évolution qui a tant de mal à passer, n'est-ce pas parce que notre cerveau lui-même n'est pas encore assez évolué pour la comprendre. Autour de la question, l'évolution est-elle plus futée que nous? On se retrouve demain, si vous le voulez bien. Merci de votre curiosité et de votre interactivité. Surtout, gardez l'esprit libre et ouvert à l'écoute de RFI, un prochain journal dans 30 secondes.